Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce balado du Cégep de Baie-Comeau dont nous trouverons le nom bientôt. Et je me présente Daniel Cardin, conseiller technopédagogique, ainsi que
Julie Matte
et Alison Poirier.
Alors, pour ma part, je suis conseillère pédagogique en amélioration du français au Cégep. Et Alison?
Ah oui, je suis étudiante en arts et lettres au Cégep de Baie-Comeau.
Puis en plus, c'est impliqué au niveau du conseil.
Oui, je suis dans la GECBC, donc l'association étudiante du Cégep de Baie-Comeau. Ça fait maintenant 2 ans là, que je fais un petit mandat. Fait que j'aime bien ça.
Ah, c'est fun.
Super. Bien, on est très content aujourd'hui d'enregistrer ce premier épisode qui parle de toutes sortes de choses qui se passent au Cégep. Donc, mais pour commencer, on voulait juste jaser ensemble de qu'est-ce qu'on fait ici au Cégep, pourquoi on veut s'enregistrer, puis diffuser ça dans le CVE, par exemple. Donc, Julie, qu'est-ce que tu fais, toi, au Cégep?
Bien, d'abord, je m'occupe de l'amélioration de la langue. Donc, c'est dans cette optique-là que j'offre mes mini-ateliers, d'ailleurs, hein, le jeudi, une fois par mois. Et le prochain sera, d'ailleurs, ce jeudi-ci, donc il va porter sur la syntaxe. J'offre des mini-ateliers. J'offre aussi de l'aide, du soutien en classe quand les enseignants me demandent d'y aller. Hier, je suis allée corriger des fautes que je voyais sur les affiches électorales des étudiants et étudiantes qui vont présenter ça bientôt. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi au niveau de l'amélioration? Bien, j'aide les employés aussi quand ils ont des questions. Je réponds aux questions ponctuellement. Je les invite à venir me voir pour que je leur offre certaines notions sur des règles et tout ça. Puis l'autre volet, c'est la valorisation. Alors, pour ce volet-là, j'organise des activités. Peut-être que vous avez entendu parler du pentathlon de Molière.
Oh, que oui!
Daniel a d'ailleurs participé avec son équipe en fin de semaine à notre rallye voiture à travers un market.
Ben oui, ainsi que le cerveau des opérations ici présentement. Allez!
Ben oui, Alain Richer faisait partie d'une équipe. Les pronominous, imaginez-vous donc. Alors, les employés se sont fait des équipes de 3. Puis, à la fin de l'année, on va déterminer quelle équipe a amassé le plus de points à travers les diverses activités. Puis, vont se mériter, imaginez-vous, un certificat de 400 $ à la cache d'Amélie. Alors, c'est ça. Pour ta part, Daniel, qu'est-ce que tu fais au Cégep?
Oui, bien, en fait, mon but très générique, c'est d'intégrer les technologies au Cégep. Donc, ça comporte plusieurs aspects, là. Il y a un aspect plus macro, plus institutionnel qui fait que je vais travailler dans l'intégration des technologies dans les programmes. Fait que ça, d'avoir une vision vraiment d'ensemble sur les technologies au Cégep. Je fais partie d'un réseau reptique intercollégial à travers le Québec, dans lequel on travaille sur plein de belles choses. Mais il y a aussi un côté plus micro, plus terrain, où je vais intervenir puis accompagner les profs, les étudiants, justement. Donc, j'anime les ateliers avec toi, Julie, les merveilleux mini-ateliers qu'on veut promouvoir très fortement, très férocement à travers ce podcast, entre autres.
Ils s'adressent à qui déjà, nos mini-ateliers?
Ils s'adressent à, attachez-vous, tout le monde! Et c'est pas assez beau? Pour vrai, là, tout le monde est bienvenu.
Les étudiants, mais aussi les membres du personnel. Là.
Oui, les étudiants, membres du personnel, même, c'est ça, enseignants, comme professionnels, comme concierges. ce serait le fun, pour vrai, que le concierge vienne. J'aimerais vraiment ça. Je pense pas que ça va arriver, mais chaque jour, je l'espère. Toi, Alison, comment ça va en arts et lettres?
Ah, ça va super bien. En fait, j'ai fait déjà une année en sciences humaines. Puis là, ben en fait, c'est ça, j'ai changé là, cette année pour le programme d'art et lettres. Puis je me sens vraiment à ma place. C'est sûr que ça dépend des goûts de tous, là, mais moi, j'adore vraiment ça. En plus, avec l'association étudiante, c'est comme un tout que je pourrais pas demander mieux pour ma vie collégiale, là, vraiment pas.
Fait que c'est bien rempli. Est-ce que tu travailles en plus à l'extérieur?
Oui, j'ai un travail, mais tu sais, j'équilibre mon temps d'études, mon temps de travail, puis mon temps social aussi, qui est très important. Fait que tout va bien, oui.
Wow, cet équilibre est si difficile à établir quand on est aux études. T'avais fait une session hein, à Jonquière en communication, c'est ça?
Non, c'est pas moi.
Désolée. T'avais-tu fait quelque chose avant, non?
C'est pas moi non plus, Damien. Okay.
Pour vrai, je te vois partout. Je te crée des vies antérieures et présentes multiples.
Est-ce que vous connaissez le lexique spécialisé des études collégiales en français et nous?
J'ai vu passer, oui, okay. j'ai vu ta petite capsule la semaine passée, vraiment intéressant. On l'a partagé d'ailleurs sur le compte de l'AG.
C'est une chance que l'AG me donne un coup de pouce à cet effet-là. Puis tous ceux qui ont envie de consulter le lexique peuvent le faire à partir de la page du Cégep.
Oui.
Il y a une petite plume en haut, un petit, l'icône de la plume, puis c'est comme ça qu'on peut y accéder.
Super. Wow.
Alors, c'est des mots qui se retrouvent selon les programmes, et puis les gens peuvent aller voir évidemment la signification, savoir en Innu comment ça se dit. Et il y a une petite image qui peut aider à mémoriser le mot, à le mettre en contexte. Donc, c'est un outil qui est intéressant.
C'est tellement intéressant puis tellement important maintenant d'avoir ça. Là, c'est un plus, dans le fond, vraiment.
Puis qu'est-ce qui t'a le plus impressionné quand t'es allé le voir, le lexique?
Bien, je veux dire juste l'entièreté. Tu sais, dans le fond, juste d'avoir ça, je trouve que c'est tellement... c'est une partie de nous, en fait, qu'il n'y avait pas déjà, mais qui... doit l'être. Oui. Je sais pas si c'est clair, mais tu sais, dans le fond, ça fait juste du sens pour moi que ça soit
ça donne un
disponible.
Coup de pouce.
Ouais. Oui, vraiment, vraiment.
Puis mon objectif aussi, c'était de ne pas juste l'adresser aux étudiants autochtones,
oui.
mais aussi à tous les étudiants qui trouvent que certains concepts peuvent être complexes.
Ben oui,
alors,
tellement.
Si on prend un mot comme compromission, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire ici?
Oui, mais on va te laisser l'expliquer.
C'est un danger qui place quelqu'un en besoin de protection. Mmh. Alors, c'est ça la compromission. Et c'est utilisé dans un programme comme éducation spécialisée, éducation à l'enfance. Alors, tous les étudiants peuvent bénéficier de cette définition-là.
Cool.
Puis quand vous regardez, l'image est vraiment parlante. Tu vois
c'est
le
sûr.
Petit enfant avec son toutou dans les mains qui a besoin d'être protégé dans un triangle jaune qui annonce qu'il y a un danger. Donc, c'est ça.
Mais ça, c'est probablement une des choses, justement, là, que je trouve le plus remarquable, c'est les images. Parce que, justement, la compromission, moi, demande-moi pas de définir ça. Ben, crime, on a demandé à quelqu'un de le dessiner. C'est quand même vraiment impressionnant. Puis c'est qui déjà l'illustratrice ou l'illustrateur qui a fait
c'est
ça?
C'est un illustrateur, c'est Frédéric Fontaine. Puis c'est vraiment un génie créatif. Non, malheureusement, j'ai quand même lancé l'appel au départ du projet, mais... plusieurs personnes se sont désistées, je vous dirais, parce que c'était justement un projet incroyablement vertigineux. Là. Tu sais, là, tu te lances, puis tu ne sais pas trop.
Ouais,
alors, je t'arrive avec des concepts complexes, puis là, il faut que tu crées, il faut que tu penses, il faut que tu dessines. Alors, ça a été le seul qui a accepté de le faire, mais il fait avec brio.
Oui.
Ouais, il a vraiment un génie créatif. Puis, il y a 450 mots quand même à dessiner par année. Puis il me disait qu'il en fait une trentaine par semaine.
Wow!
Donc, c'est toute une production.
Wow,
c'est vraiment cool. Puis ça nous rapproche d'eux aussi, là. Je veux dire, tu sais, le contact avec eux encore aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a un manque.
Tu parles des Autochtones?
Oui. Puis je trouve que ça nous rapproche d'eux. Puis eux, peut-être que ça va leur donner un petit... je sais pas comment expliquer. Tu sais, dans le fond, ça... Ben,
un accès.
Oui, oui, oui. Vraiment.
Un accès à la langue française. Puis en fait, pour reprendre ce que tu dis, c'est que... voyons, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Je trouvais que tu avais une bonne idée.
Ça nous rapproche.
Ça nous rapproche d'eux, exactement, parce qu'aussi toute la traduction de leur langue, la
oui,
découverte de leur langue,
ça.
La complexité, à quel point l'Innu, c'est une langue qui est orale, fait qu'il y a peu de traces de l'écrit.
Ouais.
Donc, les traductrices doivent inventer des mots
ouais.
pour pouvoir être capables de définir ce qu'il y a dans le lexique. Mm. Fait que ça, c'est assez spécial aussi. Puis souvent, ils vont y aller par la périphrase, par la description. Mm. Alors, au lieu de un mot pour un mot, souvent, vous regarderez dans le lexique, un mot en français équivaut à peut-être 10 mots
ouais.
en Innu. C'est assez impressionnant.
C'est fascinant.
Non, c'est super, parce que c'est pas mal la base, là, en tant que, dans une classe, mettons, puis à l'école, que le prof, les étudiants se comprennent. Il y a des mots, ce qui paraît, que j'entendais parler, là, d'étudiants que, tu sais, c'était la semaine 8, là, qui comprenaient ce que le prof voulait dire, finalement, quand il parlait de tel terme, des trucs comme ça.
Ouais.
C'est vraiment, c'est un outil qui va vraiment être utile, là, je pense, qui va vraiment améliorer la situation dans les classes.
Ouais,
c'est ce que j'espère.
Il y a des étudiants qui me disaient aussi qu'ils étaient un peu mal à l'aise parce que quand l'enseignant parle, ils ne comprennent pas les mots, doivent se parler entre eux. Puis là, ils se disent, peut-être qu'ils vont penser, les enseignants, qu'on est impolis, donc on n'est pas à l'aise. Alors, je me disais, en ayant le lexique, même sur le téléphone, au bout du doigt, ça prend 2 secondes, puis tu
vraiment.
Peux aller valider un concept qui est plus complexe.
Fait que ça, c'est quelque chose, j'imagine, qui a été publicisé là, à l'ensemble de la population du cégep. Puis qu'on a dit, utilisez-le dans vos cours, faites des liens avec ça.
Oui, c'est ça. Pour l'instant, on a la phase 1 qui a été lancée en février passé. Fait que là, à ce moment-là, on avait 3 programmes dans lesquels avaient été puisés nos mots. Puis là, c'est depuis jeudi dernier qu'on a la phase 2, donc encore 6 nouveaux programmes. Donc, tout ce qui apparaît dans le lexique peut être utilisé. Puis, j'invite les gens à le faire. Puis, les enseignants aussi à produire, s'ils veulent, par exemple, dans les plans de cours, à les mettre
exact.
Les liens avec les mots. les mots peuvent avoir un lien cliquable. Donc, tu écris dans ton plan de cours que tu vas parler, par exemple, je ne sais pas moi, d'amortissement de telle chose. Bien là, le mot amortissement pourrait être en lien cliquable, puis ça mène directement au lexique. Fait que ça peut être intéressant aussi de faire des activités en lien avec le lexique.
C'est vraiment super. Ben, écoutez, changement de sujet. Moi, je voudrais parler de Alison aussi. Tu es avec nous aujourd'hui.
Oui.
Puis, est-ce que tu as quelque chose là, qui a fait que tu t'es dit, ben oui, j'embarque. Let's go.
Ben, tu sais, dans le fond, moi, j'avais donné mon nom pour faire partie du comité à Julie, qui est le comité de la valorisation de la langue française. Fait que déjà, ça m'intéressait beaucoup. Puis là, elle m'a proposé, en fait, le projet du balado. Puis tout de suite, j'ai fait. Oh my God, c'était vraiment ça ma réaction. Parce que déjà, de base, j'aime vraiment ça, parler, partager avec les gens. Tout le côté communication, j'adore vraiment ça. Puis j'avais jamais fait de balado, mais j'en écoute à tous les jours pratiquement. Là, fait que j'aime full ça. Fait que dans le fond, le moment que j'ai entendu l'idée, je savais que j'allais participer puis que j'allais essayer de trouver des idées, que j'allais vous aider aussi à mettre le projet sur pied. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment motivée. Puis je me suis dit que c'est un projet qui peut aussi me motiver dans mes études. Je veux dire, tu sais, c'est une activité le fun qui peut me permettre de penser à autre chose que mes études quand je le fais. Ça peut être comme une petite activité pour moi, là. C'est vraiment ça. Donc, voilà, ça serait ça ma motivation de participer au podcast.
C'est une bonne réponse.
Puis de rencontrer, en fait, d'autres invités que vous connaissez, mais que moi, je connais pas nécessairement, en apprendre sur d'autres personnes, en apprendre sur plein de sujets. Donc, c'est que du positif, je trouvais. Fait que...
Ah, c'est bien. Oui. Puis, on va voir qu'au cégep, il y a tellement, justement, de personnes extraordinaires tellement. À découvrir, oui. Tant au niveau des sports, culturels, tous les niveaux. Là,
ouais, vraiment.
Ah, j'ai vraiment hâte là, d'en connaître plus sur plusieurs personnes, pour ne pas dire des légendes du cégep de Baie-Comeau.
Oui.
Ouais, non, vraiment. Puis, on est content justement, qu'il y ait au moins une étudiante avec nous.
Ben
là,
oui,
parce
c'est
qu'à
ça.
La base, nous autres, on parlait de radio étudiante.
Ouais.
On voulait raviver ça, ramener ça, mais là, tu sais, on est deux professionnels, fait que ça marche pas trop, là, mais fait qu'on est vraiment content qu'il y ait des étudiants, étudiantes avec nous dans ce projet-là.
Puis toi, Dan, parle-moi donc encore de ton rôle de reptique, là, en quoi tu trouves que c'est très utile au cégep, qu'est-ce que tu fais pour donner un coup de pouce à ce niveau-là? Est-ce que la pandémie, d'ailleurs, a fait en sorte que ton rôle est devenu très important?
Ben oui, certainement. Là, moi, je suis arrivé en plein milieu. En fait, pas en plein milieu. En plein début de pandémie. Moi, je suis rentré le 9 mars. Puis le vendredi du lundi que je rentrais, il y avait la pandémie qui
arrivait.
C'est fou. Fait que, je me suis vraiment retrouvé plongé dans le bain technologique de la pandémie. Puis oui, là, clairement, ça a mis en évidence l'importance de mon rôle, je pense, au cégep.
Vraiment.
J'ai vraiment pu... en fait, moi, je trouve que c'est vraiment une chance, là, parce que j'ai pu travailler avec plein de monde très, très concrètement. Puis j'ai vraiment pu côtoyer les gens avec qui je travaillais déjà avant j'enseignais. Fait que ça a vraiment été une belle expérience. Moi, c'est sûr que j'avais le beau jeu dans la pandémie, là, au sens où moi, j'accompagne le prof, j'y montre comment faire, mais après, c'est lui qui va au front, si je peux dire ça comme ça. C'est lui qui va être là dans le cours à distance, puis va être pris avec les problèmes. Je vais arriver s'il y a quelque chose. Mais bref, moi, j'ai vraiment une position là, vraiment là, moins stressante que les profs, ça, c'est clair.
Mais là, entre toi, moi et Mademoiselle Alison, là, dis-nous, est-ce que tu connaissais vraiment tout ça, là, quand tu enseignais ça aux enseignantes, le Zoom, le
Teams? La réponse rapide, c'est non. Honnêtement, non. Mais la différence, c'est que moi, j'ai été payé pour prendre le temps de connaître tout ça, tu sais. Puis le prof, lui, c'est parce qu'il y a toutes les questions technologiques, mais il y a les questions de son cours aussi. Mm-hmm. Tu sais, comment je vais adapter mon cours à distance? Ouais. Comment je vais repenser toute la pédagogie derrière? Puis comment... Bref, il y en a vraiment beaucoup de questions à se poser. Là. Puis moi, je vais l'aider avec certaines de ces questions-là. Puis en même temps, justement, le fait que j'aide plein de profs, ça fait que je deviens comme une mini-encyclopédie vivante parce que là, je recueille plein de partages, plein d'expériences. Okay, tel prof, lui, a essayé ça. Tel prof, lui, trouve que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Tel prof, lui, trouve que ça fonctionne pas. Mm-hmm. Ça, machin. J'accumule vraiment des beaucoup de connaissances que j'avais pas au début du tout, mais qu'après, je peux partager. Puis, tranquillement, là, je deviens une personne intéressante à questionner quand on a des problèmes. Mais non, c'est ça, ça vraiment... Puis là, ben, tu sais, outre la pandémie, c'est certain qu'aujourd'hui, là, on vit dans une époque ultra numérique.
Ben oui.
Fait que c'est pas mal un incontournable, ça fait partie de nos vies de tous les jours. Puis on est tellement dans un océan d'outils, de façons de faire, puis tout. Fait que, puis comment on se fait une tête là-dedans, comment on développe une débrouillardise, une autonomie, une vision plus large là, des grands principes qu'il faut connaître, une vision éthique aussi du numérique qui est au centre de tout, là, même du cadre de référence de la compétence numérique au Québec. Là. Fait que, ouais, il y a beaucoup de choses, beaucoup de raisons là, pourquoi j'estime que c'est important là, ce poste-là dans une place comme le Cégep.
Je trouve qu'on a ça en commun. Le fait que le numérique est si important, ça fait aussi en sorte que les gens peuvent avoir une lacune importante au niveau de cet outil-là, donc au niveau de la communication. C'est là où je fais le parallèle avec le français, tu sais. Mm-hmm. Quand on dit qu'au Québec, je ressortais des petites statistiques, qu'il y a 19 % des Québécois qui sont analphabètes, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de littératie de moins 1 à 1, donc 6 niveaux. Alors, c'est assez impressionnant de voir que quand on a de la difficulté à lire, parce qu'on parle de lecture, écriture, interprétation aussi de ce qui est écrit, donc, puis d'être capable de réutiliser ces données-là. Mmh. Alors, on s'aperçoit qu'il y a une bonne difficulté. Puis quand tu ajoutes à ça, en plus, le côté numérique, bien, ça peut être encore un obstacle de plus, là.
Oui, c'est clair. C'est ça, tu parles... On peut pas dire analphabétisme, c'est ça?
Tu peux dire analphabète. Okay, tu peux dire analphabétisme. Tu peux dire analphabétisation. Ce que tu peux pas dire, c'est le taux d'analphabétisation.
OK.
Ça se dit pas parce qu'analphabétisme ou analphabétisation, c'est vraiment l'incapacité ou la difficulté à lire, écrire, comprendre un texte, une phrase. Fait que ça peut pas être un taux d'analphabétisation.
Mm-hmm.
C'est bon?
Mais je veux dire, quand on parle de lacune avec la langue française, je vais vraiment rester...
Tu peux dire l'analphabétisme.
Super, Mais oui, c'est ça, on parle. Mais ça me fait penser justement aussi aux lacunes avec le numérique. Aujourd'hui, on pense souvent que, mettons, les nouvelles générations baignent là-dedans, baignent dans le numérique, baignent dans les outils technologiques. Mais il y a quand même... On est vraiment conditionné, moi, je trouve, de façon... général à ne pas réfléchir. Mettons, quand on utilise une plateforme, tellement. Quand on utilise un appareil mobile. Fait qu'il y a tout un côté débrouillardise, un côté vision macro de tout ce qui se passe qui est à développer vraiment, là, autant que ceux qui n'ont pas grandi là-dedans.
Oui. Toi, Alison, est-ce que tu en utilises des plateformes? Est-ce que tu utilises des logiciels au niveau de tes travaux? Qu'est-ce que tu utilises?
Ben, tu sais, dans le fond, c'est sûr, tu sais, si on parle de COVID, études en ligne et tout ça, moi, j'ai eu vraiment, vraiment de la misère. Tu sais, on a eu comme juste une demi-session, même pas au complet, en ligne. Puis, moi, j'ai pas vraiment réussi à m'adapter, là. J'avais vraiment de la misère à pas avoir le contact là, humain, puis de... Fait que ça, c'est un point. C'était quoi la question?
Si tu avais des plateformes numériques préférées ou...
Ben, pour faire mes travaux, souvent, j'utilise les classiques, là, Word, PowerPoint, mais j'aime aussi vraiment beaucoup Canva pour tout ce qui est présentation. Si je parle contexte AGE-CBC, vu que je suis la responsable aux communications, j'ai beaucoup à faire avec les réseaux.
Mm-hmm.
Donc, pour faire mes publications, j'utilise toujours Canva. Je trouve que c'est tellement facile, puis c'est toujours beau.
Ça peut c'est être... gratuit.
Oui, c'est sûr qu'il y a la version pro, mais même dans la version classique, là, il y a tellement de belles choses à utiliser pour faire des présentations, faire des publications, faire des affiches, faire des cartes.
Utiliser des images aussi libres de droit. Ça, c'est
vraiment.
Le fun.
Fait que tu peux vraiment faire n'importe quoi, puis je trouve que c'est plus professionnel que PowerPoint, par exemple. Mais PowerPoint, je veux dire, c'est comme... ça qu'on a appris là, à l'école, puis tout ça, c'est quand même un bon moyen. Mais moi, Canva, j'aime vraiment ça. Puis sinon, c'est sûr que j'utilise les réseaux à tous les jours. Mais si je reprends qu'est-ce que Daniel disait tantôt, qu'est-ce que je voulais dire, il disait...
qu'on a, on est conditionné à être plus utilisateur.
Oui, c'est les... ça. Ouais. Exact. Puis qu'on est vraiment, je trouve qu'on est vraiment en surface.
Ouais.
On va utiliser que Instagram, que Facebook, que
Twitter.
Toutes les réseaux comme plus de base, je trouve qu'il y a comme un manque de « Ah, oh, je m'intéresse à ça. Ah, oh, je vais chercher là-dessus. » Tu sais, des fois, ça peut juste être des choses super simples. Ce matin, je vais lire telle affaire, je vais le partager. Ou, je sais pas si ça fait du... Ouais. J'essaie de faire du pouce sur qu'est-ce que tu avais dit.
Développer sa culture informationnelle.
Oui, à place de l'utiliser d'une façon... Je trouve qu'elle est encore utilisée d'une façon très négative, ce qui est vraiment plate encore, surtout les jeunes, mais aussi tout le monde. Mais la façon que les jeunes l'utilisent, des fois, je trouve que c'est encore pas assez développé. On le surutilise, mais pas de la bonne façon.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est comme on fait juste emprisonner. Mettons TikTok.
Mm-hmm.
Je sais pas si vous connaissez TikTok.
Ouais.
Comme tu peux passer des heures là-dessus, mais en vrai, après, tu te dis, oh mon Dieu, j'aurais pu faire tel travail à la place. Ça m'aurait tellement plus enrichi que regarder des gens danser. Comme c'est comme un moule dans lequel on rentre que... Tu sais plus par
on
où.
On est un peu captif, par exemple.
Tellement.
De ça, hein.
Ouais, TikTok, on s'en rend vraiment. Pas
compte. C'est ça. On dirait que moi, TikTok, je trouve ça pire que Facebook. Ah, mettons, tellement. Parce que moi, Facebook, mettons 4-5 ans, j'ai décidé de me désabonner de toutes mes amies dans Facebook.
Okay.
Pas de les retirer de ma liste d'amis, mais de me désabonner de toutes mes amies.
Ouais.
De me désabonner de toutes les niaiseries là, que j'étais. Le Thug Life Québec,
oh, Vines. Mon Dieu.
Je me suis tout désabonné de toutes. Pour uniquement m'abonner à des pages d'actualité scientifique, des pages d'actualité internationale, puis tout.
Ouais.
Ben, je me suis dit, moi, je passe tellement de temps sur Facebook, autant rendre ça pertinent, constructif. J'essaie d'avoir des. Tu sais, le Wall Street Journal, le Washington Post, tu sais, tout. Fait que là, finalement, je me suis comme servi de cet outil-là pour développer ma culture informationnelle. Mais là, comment veux-tu faire ça avec TikTok, là?
Non, c'est ça.
Tu peux pas.
Non, mais tu sais, un ménage de nos amis Facebook, des fois, ou tu sais, nos abonnements Instagram. D'ailleurs, je suis dans le processus de mes abonnements Instagram en ce moment. C'est drôle qu'on parle de ça. Puis, mon Dieu, tu suis des personnes que, dans le fond, tu les vois jamais sur ton fil d'actualité. Puis, c'est tellement pas important comme de voir sa vie à cette personne-là. Fait que, des fois, juste de faire un ménage là-dedans, ça fait du bien.
Mais tu vois, moi, j'ai jamais voulu avoir de compte Instagram pour
c'est
cette
vrai,
raison.
Pour ça.
Ouais, je me trouvais déjà très, très prise avec Facebook.
Mais tu sais, il y a tellement un côté... tu sais, dans le fond, là, on parle du négatif des réseaux, mais il y a tellement un côté enrichissant puis tellement intéressant, inspirant. Moi, justement, j'utilise Pinterest aussi pour m'inspirer pour, mettons, mes cours d'art ou juste dans la vie de tous les jours, je m'inspire beaucoup avec Pinterest puis même Instagram, tu sais... Je suis beaucoup de comptes fashion. Moi, j'adore la mode. Je veux m'en aller là-dedans. Fait que moi, des designers, tu sais, moi, ça me passionne vraiment à suivre ça. Mais tu sais, pour d'autres personnes, non. Mais c'est ça. Là, on dévalise tellement du sujet en ce moment, mais...
Ben, on dévalise-tu? Je sais pas. On est rendu loin, là.
On est quand même dans les médias sociaux. C'est un lien avec toi, Daniel.
La technologie numérique.
C'est ça. C'est tellement le fun.
Les problèmes qui viennent avec.
Oui.
Ah oui, mais puis pour te retourner la question, Julie, tantôt tu me disais, qu'est-ce que tu m'as demandé tantôt?
Qu'est-ce que je t'ai demandé?
Tu m'as demandé
quelque
chose
En quoi ton travail
comme...
est intéressant, c'est,
oui,
juste
c'est
important?
Puis toi, Julie?
Et moi, mon travail est important parce que je crois que les gens, des fois, pensent que la langue française, on est tannés de l'entendre parler.
Mm-hmm.
Fait que mon travail est important parce que je veux redynamiser ça, je veux rendre ça ludique, mais aussi voir à quel point c'est important de bien parler notre français, d'être au courant de ce qui se passe au sujet de notre langue. Ce que j'entends tout le temps, c'est que le français fait donc bien compliqué.
Mm-hmm.
Ça, j'essaie d'aller à l'encontre de ça puis de prouver le contraire. Oui, ça peut être assez complexe pour certaines règles, mais pas dans l'ensemble. Le français, c'est pas si compliqué. Il y a une logique à ça. Quand j'enseigne les règles de grammaire, je me fais le défi de prouver à quel point ça vient d'une histoire, d'une raison. Telle règle vient de telle cause. Puis que de l'écrire, c'est quand même assez facile quand on a une structure grammaticale, quand on comprend. Fait que c'est ça mon défi. Fait que ça, je trouve que c'est important quand même de remettre ça sur la table, à quel point
vraiment.
Le français est important.
Parlant de ça, est-ce que tu as entendu parler des réflexions là, qu'il y a présentement sur la réforme sur les participes passés?
Oui, ça c'est toujours dans l'air. Mais ça, c'est assez drôle parce que cette règle-là des participes passés est assez arbitraire. Il faut savoir que Clément Marot, qui a décidé un jour que ça devait être fixé. Puis il est allé faire un petit voyage en Italie, puis il s'est inspiré de la langue italienne. Et puis il a décidé qu'on allait justement avec le participe passé, avec avoir, accorder, si le complément direct est placé devant. Et ça a été, à ce moment-là, adopté. Mais maintenant, on est prêt avec cette règle-là. Puis là, on se dit, c'est pas logique. Puis pourquoi ci et pourquoi ça? Puis c'est la seule règle, en passant, de notre langue française qui a un lien avec la place où le mot est dans notre phrase. Donc, ça aussi, c'est particulier. Mais bon, il y a des enseignants de français qui sont allés au barricade en disant, ben pourquoi qu'on ferait pas juste accorder avec être, puis avec avoir, ne pas accorder, tout simplement. Peu importe si le CD est devant, si le CD est après, s'il n'existe pas. Et ben, c'est encore dans l'air, mais on verra ce qu'il y en est. C'est sûr que l'Académie française, hein, qui est toujours très, très, très réticente à faire quelques changements que ce soit. Alors, avant que ça passe, on verra.
À suivre.
À suivre.
Puis, puis qu'est-ce que tu aimes dans ton travail particulièrement?
Bien, j'aime quand je parle de la langue, j'aime m'intéresser à toute l'histoire de la langue parce que je trouve que, justement, on s'est souvent fait dire qu'il n'y avait pas de raison à ci, pas de raison à ça, que voici telle exception, apprends par cœur, mais au contraire, il y a tellement d'histoire derrière notre langue. C'est fascinant. C'est fascinant. Alors ça, j'adore ça. J'aime être créative aussi. J'aime penser quelle sera la meilleure activité pour atteindre tel objectif. Donc, j'aime ça offrir... On parlait du rallye tout à l'heure, mais bientôt aussi, il va y avoir un casino. Puis au lieu d'être évidemment des tables avec des chiffres et des jeux, des dés, des cartes, bien, ce sera des stations où on fera des petites activités en français où les employés qui viendront jouer, les membres du Pentathlon de Molière vont pouvoir cumuler des jetons pour pouvoir ensuite avoir un pointage pour leur équipe.
Alors, regardez-moi bien cumuler ça, ces jetons-là.
Alors, ça.
Tu me parles de créativité puis de trouver des solutions, puis ça me fait vraiment penser à mon travail. C'est une des choses que j'aime là, aussi, là, la liberté puis l'autonomie que tu as de trouver des nouvelles façons de faire. Pas nécessairement de nouvelles, mais les façons de faire que tu trouves qui sont les plus efficaces ou que d'autres gens trouvent qui sont les plus efficaces. Puis ouais, ça, j'aime vraiment aussi la liberté là, que j'ai à ce niveau-là. Puis... En même temps, il y a tellement un beau contact aussi avec beaucoup de personnes au cégep. Je trouve que c'est vraiment un bon mélange de... Hey, en tout cas, je me suis auto-retourné la question.
je trouve ça très pertinent.
Je trouve que c'est vraiment un bon mélange de travail macro puis micro en même temps. Mais, ouais.
Oui, la liberté dans ce qu'on fait, c'est vraiment important puis intéressant. Toi, Alison, parle-nous de ta liberté. Est-ce que c'est une notion pour toi qui est importante dans ce que tu vas faire éventuellement comme travail?
Oui, vraiment. Moi, le côté créatif, c'est sûr que je vais devoir le manifester dans mon travail. C'est vraiment important. Puis du fait que j'ai changé de programme, c'est que justement, dans le programme d'art et lettres et communication, tu es un peu plus dans le concret même que dans les sciences humaines, je trouve... en tant qu'artiste. Je veux dire, il y a vraiment un côté plus création, il y a un côté aussi plus analyse littéraire, ce qui est vraiment intéressant aussi. On en apprend d'ailleurs sur l'histoire littéraire. Puis en ce moment, là, on est plus dans le... on parle beaucoup du territoire. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Fait qu'on parle beaucoup de la Côte-Nord dans nos romans. Dans des extraits, on est allé voir une pièce de théâtre.
Qu'est-ce que vous lisez présentement?
Là, j'ai plein de livres, là, que j'ai... plein. Oui, on a lu les 100. Mon Dieu, je me rappelle plus de l'auteur. Je l'ai dans mon sac. On lit aussi, on est en train de terminer Volkswagen Blues dans mon cours de manifestation. Puis, on est en train de lire Les filles ont soif dans mon cours de littérature de base. Fait que ça aussi, là, le fait de lire plein d'œuvres... Ça l'enrichit tellement aussi mon apprentissage. Donc ça, j'aime vraiment ça. Puis, la côté liberté, aussi liberté créative. Je veux dire, dans mes cours d'art, par exemple, avec Marie-Claude, je peux un peu faire tout à ma façon en ayant comme une règle de base, là, puis des instructions. Mais je peux toujours comme un peu faire qu'est-ce que je veux, dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Mais c'est sûr qu'avoir une liberté créative, pour moi, c'est vraiment important dans tous les... sphère de ma... pas toutes les sphères de ma vie, mais vous comprenez. Surtout dans mon métier, il va falloir que j'aie ça. Donc,
mais je pense que tu as raison, toutes les sphères de la vie, parce que même quand on a un problème dans la vie, ça prend de la créativité pour trouver notre solution.
C'est ça.
Ouais, puis les arts, avant de passer, avant de parler à autre chose, je voulais juste aussi parler de l'exposition qu'il y a eu dans le hall d'entrée du cégep, c'est ça?
Oui, ouais, ben ça, c'est les deuxièmes années, fait que c'est pas ma cohorte, mais tu sais, juste faire ça, je trouve que c'est. Ça l'enrichit tellement ton apprentissage de dire « Oh mon Dieu, je vais l'exposer. Des gens vont pouvoir avoir une opinion là-dessus, que ce soit positif ou négatif. Alors, c'est soit t'aimes ça ou soit t'aimes pas ça, tu sais. » Puis, avec ma cohorte, ben, on a aussi une exposition qui est en train de se faire. On sait pas si ça va être cette session ou peut-être la prochaine session. Tu sais, c'est comme mis à suivre aussi.
Mm-hmm.
Puis, en fait, ça va être vraiment exposé en dehors du cégep.
Wow. Fait que
ça aussi, c'est vraiment motivant.
Ben
puis
oui,
vraiment valorisant aussi de dire, oh mon Dieu, je vais faire un travail que, en fait, c'est pas une corvée quand t'es dans ce programme, quand t'es dans un programme que t'aimes, ça se fait toute seule. Puis de dire que, ben oui, les étudiants du cégep vont pouvoir le voir, vont pouvoir s'y rejoindre, mais aussi les citoyens qui sont dans Bécomo, comme tout le temps.
Ça doit être tellement motivant.
Ben tellement. Puis comme, tu sais, c'est sûr que moi, je sais vers où je m'en vais, dans quel domaine que je veux m'en aller. Fait que c'est sûr que moi, je suis dans mon élément, là, vraiment. Oui.
Rappelle-moi donc ce que tu veux faire exactement.
Ben là, en ce moment, j'aimerais ça aller à Montréal faire un bac en gestion et design de la mode. Donc, je trouvais que ça touchait à tout. Je vais faire de la photo, je vais faire de la création, mais aussi, il va y avoir de la gestion. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Mais c'est ça, quand tu sais qu'est-ce que tu veux faire, puis que t'es dans ta ligne, dans ton programme, ben c'est encore plus motivant. Puis surtout avec des profs comme Marie-Claude, par exemple.
Ah,
Et tout le temps,
à qui on va parler
tantôt, projets.
Qu'on a assez hâte, d'interviewer.
Oui, vraiment. Fait que je me rappelle plus de la question encore quand que je parle.
Ben, moi non plus. Mais ouais, puis tu parlais aussi de. Tu parlais de créations qui vont avoir une portée à l'extérieur du cégep.
Ouais.
Puis tu parlais aussi de ton territoire que tu aimais beaucoup. Ça me faisait penser aussi à l'atelier Recréer la côte qu'il y a eu là, vendredi dernier. Est-ce que vous avez entendu parler?
Oui, j'ai entendu parler. J'ai pas pu y aller, mais d'ailleurs, Audrey, puis.
Mélissa
et Julie.
Ouais.
Oui, c'est
les
ça. C'est eux qui animaient comme l'activité. Puis j'ai pas pu y aller, mais tu sais, juste ça, c'est tellement le fun. Puis savoir qu'il y a ça chez nous, je pense que la majorité des gens ne le savent pas, mais il y a plein d'expositions. D'ailleurs, en cours avec Marie-Claude, on est allé voir une exposition à l'ouvre-boîte culturelle. Puis, tu sais, c'est ouvert à tout le monde, là. Puis c'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun. Tu vois des artistes d'ici en même temps. Fait que ça aussi...
On a vraiment des profs qui dynamisent là, le milieu.
Ah, vraiment, vraiment.
Moi, j'étais allée justement à cet atelier-là, puis c'était magnifique. Là. L'animation était superbe. Les thématiques de création étaient vraiment, vraiment inspirantes. Puis tout le monde qui était là, on était comme beaucoup, mais pas beaucoup en même temps.
Ouais.
C'était comme parfait. Puis il y a plein de monde qui allait lire en avant leur création.
Oh, c'est
on
fun.
Avait 15 minutes.
Ouais.
Pis...
Est-ce qu'on est obligé de lire?
Non, pas du tout. Moi, j'ai pas lu du tout. Non. J'ai écrit beaucoup, mais j'ai pas lu. Je suis pas encore rendu là dans la vie, on dirait. Mais ouais, non, bref, c'est... Ouais, on a vraiment des perles là, au cégep de Bécomo.
Vraiment. Puis c'est comme Julia disait, c'est vraiment motivant. Travailler avec des enseignants comme ça, tu te sens même pas, tu sens aucune pression, ça se fait toute seule, puis tu peux en parler avec eux, il n'y a pas de stress. Moi, je parle pour mon expérience personnelle, mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Là, les profs sont super ouverts dans tous les programmes. En sciences humaines, c'était pareil aussi, là, je veux dire, comme Lisandre... Catherine en littérature, tu sais, toutes les profs de littérature, je les adore. Fait que, tu sais, c'est une des professeurs aussi qui sont passionnés puis qui aiment leur travail, puis ça paraît vraiment.
Puis je trouve le fait d'être un petit cégep, hein,
oui,
ça donne cette
vraiment.
Couleur-là,
ouais.
Puis l'accueil est très présent.
Oui.
Oui, très, très intime, très personnalisé. Mm-hmm.
Personnalisé.
Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sentent en confiance pour essayer des trucs, commencer des affaires qu'ils n'ont jamais faites avant, comme regarde-toi dans l'assaut.
Ouais.
Puis là, on parle des profs, mettons, là, comme Mélissa qui animait cet atelier-là de recréer la côte, qui anime aussi la troupe de théâtre.
Oui.
Puis moi, mon ami, le Brieux, il s'est lancé dans le théâtre pour la première fois. Ça fait des années qu'il voulait essayer, puis bang, c'est là que ça se passe.
C'est cool, vraiment.
Au cégep.
Ouais.
Puis il va participer, j'imagine, au cégep en spectacle.
Oui, il va être un des trois animateurs de la finale régionale, c'est ça, hein?
Wow.
Ouais, de cégep en spectacle qui va avoir lieu à Baie-Comeau cette année. C'est incroyable, on a très hâte de leur parler dans notre balado.
Vraiment.
D'ailleurs, ça fait combien de temps qu'on parle, nous autres?
Pas mal, assez longtemps.
Ça fait longtemps,
je pense qu'on en a assez, là.
J'ai pas la notion du temps, mais je pense qu'on serait prêt à parler maintenant à d'autres invités.
Ben oui,
tout à fait. Donc, j'ai hâte de les entendre. À qui on va parler exactement?
Marie-Claude Dubé, Brieux, Alex et Julien, qui vont animer Cégep en spectacle, ainsi qu'une autre personne très inspirante, Christine Dufour.
Pourquoi Christine est inspirante?
Ben là, pourquoi pas?
Parce qu'elle fait partie de l'équipe de cross-country, c'est elle qui s'en occupe.
OK, c'est bon.
Alors, on est maintenant en présence de la gentille Christine Dufour. Christine qui enseigne au cégep depuis maintenant 19 ans. Elle est enseignante en soins infirmiers, puis elle a eu la gentillesse de nous accorder ces quelques minutes pour qu'on puisse découvrir ce qu'elle fait, qui elle est. Alors justement, avant de passer à nos questions, j'ai envie d'y aller un peu en rafale avec 5 questions existentielles. Es-tu
les
prête,
meilleures.
Christine?
Oui, je suis prête.
Elle est prête. Alors, vinaigre ou barbecue?
Vinaigre.
Vinaigre. Pourquoi?
Écoute, j'adore le petit goût acidulé, là, ce qui est fort et tout ça, j'aime ça. J'adore ça.
Les chips au vinaigre à l'honneur.
Oui, oui.
Resto ou souper à la chandelle à la maison?
Souper à la chandelle à la maison.
Voyage en sac à dos ou un voyage tout inclus?
Sac à dos.
Sac à dos.
Oui.
Un petit côté...
aventurière. Puis moi, j'aime ça pas être trop organisée. Tu sais, partir, puis on y va selon où ça nous mène.
Ah, c'est bien. La spontanéité.
Oui.
Apprendre à tricoter ou à peindre?
Tricoter.
Yes! Je le savais.
Daniel est content. Est-ce que c'est parce que tu tricotes aussi, Daniel?
Ouais, moi aussi, je voudrais tricoter. Je ne sais pas pourquoi.
C'est cool, il me semble.
Oui.
C'est bon. Et une petite dernière. Cours de surf ou arts martiaux?
De surf.
De surf.
Mm. Oui.
Puis qu'est-ce qui t'attire versus les arts martiaux?
L'eau.
L'eau.
Vraiment, c'est ça. Puis je sais pas, il me semble que arts martiaux, je trouve ça super, mais... Ça m'attire un petit peu moins, là. J'ai moins d'intérêt pour ça. Mais l'eau, j'adore.
Ah, excellent. Mmh. Merci.
C'est à moi. Hey, ben, allô, Christine. Je ne sais pas si on l'a dit, mais merci beaucoup d'être là. T'es notre première invitée.
Ah, oui.
On est vraiment, vraiment contents, très excités, parce que t'es notre première invitée, non seulement à ce balado-là, mais dans nos vies radiophoniques.
Cool, je suis chanceuse.
C'est la première fois qu'on fait des balados.
Oh, wow. Ouais.
C'est ça. Fait qu'on va essayer d'être pas trop gênant, pas trop malaisant, pas trop... Bref. Fait que, une des raisons, c'est ça qu'on... pour lesquels on t'invite aujourd'hui, c'est pour que tu nous parles de ton parcours. Peux-tu nous parler de ton parcours sportif? J'ai entendu dire que tu faisais du cross-country.
En fin de compte, mon parcours à moi ou au niveau plus avec les trappeurs et...
At large.
Bon, OK.
Lâche-toi.
En fin de compte, tu sais, moi, le niveau sportif, le côté sportif, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu un intérêt pour le sport, puis ça, c'est quelque chose qui me passionne puis qui m'aide à plein, plein, plein de niveaux, là, au niveau personnel, je dirais. J'ai toujours un intérêt. Puis quand j'ai commencé à travailler au cégep, mais là, je savais, tu sais, qu'il y avait une équipe sportive et tout ça. Puis je me disais, hey, quelle belle expérience. J'aimerais ça, moi, tu sais, m'occuper de des athlètes parce que je suis enseignante, puis c'est pas pour rien, c'est parce que j'aime ça être avec des jeunes, j'aime ça enseigner, montrer, tout ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, tu sais, j'aurais un intérêt. Donc là, ils ont, à un moment donné, ça fait peut-être une dizaine d'années, ils ont parti le club de cross-country. Puis c'était Marco, à l'origine, là, tu sais, qui s'occupait.
Marco Morin.
Et là, à un moment donné, j'en ai parlé avec Marco, tout ça. Puis lui, il m'a dit, écoute, t'aimerais-tu ça, tu sais, faire partie d'équipe, puis être mon assistante? Fait que j'ai, bien sûr, sauté sur l'occasion. Je dis, oui, tu sais, j'aimerais ça, c'est une belle expérience, ça. Puis
de fil en aiguille, ben, à un moment donné, j'ai embarqué là-dedans, j'ai découvert une passion au-delà de ce que je m'imaginais, mm-hmm. là, tu sais, à quel point j'aime ça être avec eux autres. Et quand Marco dit, ben là, moi, tu sais, j'arrête, je prends ma retraite, fait que est-ce que ça te tente, là, de prendre le lead? Fait que là, un peu stressée, mais je me disais, ben oui, tu sais, je vais aller me former au niveau entraîneur et c'est tout ça. Puis je me lance parce que j'ai le goût, fait que j'y vais. Puis là, je les ai pris en charge. Ça fait 4 ans que là, je suis vraiment l'entraîneur-chef là, des trappeurs. Fait que, puis, ben, je trouve qu'à chaque année, je m'améliore parce que je vais me chercher des formations et tout ça. Ouais.
Qu'est-ce puis, que ça demande comme formation?
Ben, en fait, moi, j'ai été me chercher une formation avec C'est Forcé. C'est Forcé, c'est une formation, je dirais, plus de... intervenant sportif, mais je me suis perfectionnée en course. Mm-hmm. Mais je suis allée chercher des formations en nutrition, en physiologie de l'entraînement, la biomécanique, tout ça, les blessures. Puis, bien sûr, les cours PNCE, là, le programme national là, canadien là, pour les entraîneurs. Fait que je me forme aussi là-dedans. Là. Puis ça, je dirais, c'est plus général, tu sais, au niveau des entraînements et tout ça, tu sais, comme entraîneur, tu sais, qu'est-ce que tu dois respecter au niveau de l'éthique et tout ça. Fait que c'est ces formations-là, tu sais, que je fais. Puis je suis encore là-dedans, d'ailleurs, parce que moi, apprendre, là, j'aime ça. Ça me passionne.
Ouais. Fait formation continue.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Fait que là, je me forme là, pour devenir meilleure encore pour eux autres, pour les trappeurs.
C'est ça, parce que c'était la première fois que tu as entraîné des sportifs avec le trappeur. Okay.
Oui, exactement. C'est une première expérience. Puis je trippe tellement, là. Écoute, je pourrais en faire mon métier, là.
Puis ça me fait rire un peu parce que je vois un parallèle entre toi, athlète, et toi, entraîneur. Donc, la personne qui veut aller plus loin, la personne qui veut se perfectionner, la personne aussi qui doit être très disciplinée. Alors, j'imagine qu'en tant qu'enseignante, l'horaire doit être assez important. Donc, on doit réussir à inclure dans l'horaire la partie sport. Comment fais-tu ça?
En fait, ça prend vraiment une bonne gestion. Une bonne gestion de ton horaire, une bonne planification, en fait. Parce que moi, j'entraîne. Mais il faut que je m'entraîne aussi parce que j'en ai besoin, parce que j'aime ça. Fait que c'est vraiment une bonne planification, puis il faut respecter la planification. Ça veut dire que là, avec les trappeurs, tu sais, à cette période-ci, je les entraîne le matin, dans 3 matins par semaine, de 6 à 7. Puis d'ailleurs, je lui lève mon chapeau parce qu'ils sont là. Ils arrivent à 6h moins quart, puis on s'entraîne. Wow, puis ouais, c'est vraiment des jeunes motivés. Fait qu'après ça, tu sais, j'ai mon travail toute la journée, puis moi, je m'entraîne le soir. Fait que, tu sais, ça prend vraiment une planification, tu sais.
Une discipline.
Ouais. Si moi, tu sais, comme professionnelle, dans le fond, parce que je travaille tout ça, je pense que comme étudiant, ben c'est un peu la même affaire. Il faut qu'il se planifie. Puis, je sais pas, tu sais, je me dis, des fois, on voit ça un peu gros, puis on se dit, oh mon Dieu, tu sais, ils vont se fatiguer et tout ça. Non. Le sport, tu sais, c'est prouvé là, que ça a juste des bienfaits. Fait qu'il s'agit juste d'avoir un horaire et de la suivre, de pas trop déroger, puis ils vont y trouver leur compte, c'est sûr. Puis ça se fait.
Qu'est-ce qui fait qu'un jeune va réussir davantage dans ce sport-là plutôt qu'un autre?
Et ça, c'est une bonne question. Je pense en fait que c'est vraiment la persévérance, la détermination. Puis c'est sûr qu'à la base, il faut qu'il aime ça, hein, faut qu'il ait la passion. Puis à date, en tout cas, ceux que j'ai, c'est tous des jeunes là, qui sont super passionnés. Fait que je pense qu'au-delà de la passion, ça prend une bonne organisation, une bonne planification de leur temps. Puis avec ça, bien écoute, ça se fait là, c'est sûr sur ça.
Puis comment ça va, hein, juste par curiosité, au niveau de la gestion des émotions, au niveau psychologique, la psychologie du sport avec les jeunes, comment tu gères ça avec eux?
J'ai différents jeunes, hein, c'est sûr qu'ils réagissent tous différemment. Puis entre autres, c'est bien cette question-là parce que j'en ai une cette année qu'elle a zéro confiance en elle, mais elle performe super bien. Fait que quand vient le temps, tu sais, de faire les courses et tout ça, elle a toujours peur. Fait que la gestion, c'est vraiment moi, là, je parle avec eux. Puis, tu sais, je suis vraiment ouverte, puis je les écoute, puis, tu sais, je ne vais pas dans la fausse rassurance, mais j'essaie de leur faire prendre conscience, tu sais, de leur force puis de leur capacité. Puis ce qui est le fun avec cette équipe-là, puis moi, c'est vraiment un créneau à lequel je crois, puis que le cégep aussi, tu sais, ils vont m'appuyer là-dedans, c'est un sport que je veux qu'il soit démocratisé. C'est pas l'élite, là. Oui, il y en a, puis c'est super, puis on aime ça, puis on va les encourager, puis on va essayer de les amener le plus loin possible. Mais moi, là, ce que je veux, c'est que tout le monde y trouve son compte. Puis quand ils sont en course, là, c'est beau, là. Tu sais, là, que tu sois le premier ou que tu sois le dernier, moi, quand je vois des sourires puis que je vois qu'ils sentent qu'ils se sont réalisés, qu'ils sont fiers d'eux, moi, c'est ma plus grande fierté. Fait que j'essaie, tu sais, vraiment de jaser avec eux. Puis avant les courses, tu sais, souvent, je vais passer d'un à l'autre. Puis là, je vais leur parler comment tu te sens, tu sais, c'est quoi tes objectifs. Puis on échange, tu sais, comme ça. Fait qu'ils savent qu'ils peuvent m'en parler. Puis on échange beaucoup. Fait que je pense que ce côté-là, c'est comme ça que je l'exploite.
Hein. C'est une belle relation d'aide. Hein? Tu disais ça tout à l'heure, que dans ton travail, c'était ce que tu faisais, une relation d'aide, puis ça se transporte dans le sport. C'est un bel exemple.
Oui, puis il y a quelque chose que je trouve de beau, puis on dirait que ça me surprend pas, parce que, ben là, premièrement, on est du monde qui aime apprendre, fait qu'on veut que nos jeunes apprennent, peu importe leur niveau. Puis en même temps, il y a le fait, on dirait qu'à Bécomo, tu sais, on est petit. Je sens comme une meilleure inclusivité dans les équipes de sport ou dans le trappeur, tu sais, moi, mettons, avec le basket, qu'on a de la misère à avoir du monde, mais de toute façon, bref, ça fait que veux, veux pas, tu sais, toi, tu viens nous voir, tu montres que tu veux apprendre, on va être heureux de te coacher. Puis en même temps, ben c'est ça, peu importe ton niveau, tu sais, on n'est pas comme à Québec où là, faut vraiment trier, puis là, aller chercher, là tu vas aller chercher la crème, là, ou je sais pas quoi.
Ouais.
Tu vas vraiment avoir plus une vision élitiste de ton équipe.
Ouais. Bien, tout à fait, tu sais, puis c'est sûr que je trouve intéressant, c'est que, écoute, je te donne juste un exemple, il y a quelques années, j'avais des athlètes, on a notre courte saison de cross-country, puis après ça, moi, je continue toujours, j'ai un petit projet, là, tu sais, soit qu'on s'entraîne pour faire la course à Lévis au monde, mais soit qu'on s'entraîne pour le triathlon, dépendamment du bassin que j'ai. Puis j'avais des athlètes, eux autres, ils avaient le goût de faire du triathlon, mais ils ne savaient pas nager. Bien, j'ai dit, ah ouais, venez-vous-en. On s'en va au bain libre, puis je leur ai montré à nager, puis ils sont meilleurs que moi maintenant. Ah. Fait que, tu sais, je me dis, il n'y a rien d'impossible. Tu sais, quand tu veux, c'est là, puis c'est ouvert, puis moi, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça, c'est ça, les prendre à base s'il faut, puis les amener plus loin, mais loin où est-ce qu'eux veulent aller. Mm-hmm. Tu sais, tu peux t'entraîner pour t'entraîner. Pas obligé de faire des compétitions, mais si tu as le goût, on va y aller aussi. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est ouvert à tout le monde, tu sais, c'est accessible.
Oui, puis là, tu parles de la nage, puis en même temps, je voudrais faire rayonner aussi vraiment la culture du sport qu'il y a au cégep, parce que je sais que toi, tu nages avec plusieurs autres personnes au cégep.
Oui.
Ça fait longtemps que vous faites ça, nager dans les lacs, j'ai entendu dire. Là.
Oui, ben écoute, en fait, on fait du triathlon, nous autres, depuis peut-être ça, une dizaine d'années. Puis
là, nous autres étant...
Ah, oh, bien, mettons, moi puis mon conjoint, là, Roland Morin.
Parfait.
Fait que nous autres, on s'entraîne, c'est sûr, tu sais, en piscine, mais l'été, on s'entraîne en lac. Puis justement, mes trappeurs, tu sais, j'y traîne. Tu sais, quand ils sont prêts puis que je sais qu'ils sont à l'aise et tout ça, bien, let's go, tu sais, on va nager en lac. Puis avec d'autres membres du personnel aussi, là, on a quelques personnes ici là, qui nagent avec nous, donc Stéphanie Cole, Marc Rochette, ça, c'en est là, des Stédé là, qui sont toujours là. Fait qu'on est une petite gang comme ça. Puis des fois, le matin, là, je vous le dis, là, on est peut-être une douzaine. Là.
Wow.
On part nager à 6 heures le matin.
6 heures, oh là là, avant le travail.
Oui, mais c'est tellement beau.
Vraiment,
c'est le meilleur moment. Parce que t'as le lever du soleil, c'est calme, c'est assez magnifique, vraiment. Puis les jeunes, ben quand ils ont le goût, là, puis qu'ils veulent commencer, hein, ouais, let's go, tu sais, je les coach, puis souvent, là, je vais rester avec eux, je vais nager avec eux, puis quand ils sont à l'aise, je les laisse aller, puis fait que je les accompagne, là, vraiment. Moi, j'aime quasiment plus ça que moi, tu sais, m'entraîner. J'en ai besoin, mais j'aime ça aussi. Fait que si j'avais à choisir entre les deux, là, j'aurais de la misère parce que j'aime trop ça.
C'est gratifiant.
Ouais.
Ben, je te comprends. Moi aussi, j'en profite pour en parler. Là. J'ai commencé à coacher pour le trappeur au basket.
Oui, c'est vrai.
Puis vraiment, là, j'ai pogné la piqûre. Là. Puis tu sais, tu parles là, d'auto-formation, puis d'aller suivre des formations, là, je pense vraiment que je vais m'enligner là-dessus. Là. C'est à partir de quand, mettons, que tu t'es senti plus imposteur là, en tant qu'entraîneur?
J'adore ta question parce que moi, je me sens toujours imposteur.
Okay,
ça. Ça, là, c'est comme un problème que j'ai. Je me sens... Fait que je pense que c'est ça aussi qui me pousse à toujours aller plus loin parce que je veux toujours être mieux, puis mieux, puis mieux, puis leur en donner, puis m'assurer que ce que je lui donne, c'est bon. Puis... Fait que je l'ai encore.
OK, bon.
d'imposteur. Mais je me dis, je suis le même dans pas mal toutes les sphères de ma vie, mais j'ai l'impression que je vais être imposteur jusqu'à la fin.
Bien, c'est ça. Mais je pense, c'est comme tu dis, c'est une bonne chose en quelque part.
Bien, ça te pousse à aller plus loin puis à te former. Fait que je me dis, c'est pas méchant. important. Là.
Puis nos trappeurs cette année, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'il y a eu des compétitions? Oui. Est-ce que c'est terminé? Raconte-nous
oui.
ça.
On a terminé. Dans le fond, nous autres, on a une courte saison. On finit toujours la dernière fin de semaine d'octobre. Généralement, c'est au provincial. Là. Cette année, il était sur les plaines à Québec. On a fait quatre compétitions au total. La première étant 3 semaines après le début de l'entraînement. Ça, c'est tough là, pour nos jeunes. Fait que, mais ça a quand même bien été. J'ai des jeunes qui ont fait toutes les compétitions. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils s'amélioraient. Fait que je voyais vraiment une progression. Puis moi, tu sais, c'est un bon indicateur de dire, OK, mes entraînements, tu sais, ils fonctionnent-tu ou ils fonctionnent pas? Fait que c'est ça. Fait que j'ai vu vraiment une belle amélioration tout au long des courses. On a eu la chance d'en faire une ici aussi. Fait que ça, c'était le fun parce que je les fais courir beaucoup dans notre parcours. Fait qu'eux autres sont habitués, là, tu sais, ils savent où est-ce qu'ils ont des montées et tout ça, tu sais, où est-ce qu'ils vont relancer. Fait que ça, c'était bon pour eux. Fait qu'on a vu vraiment des belles performances. On a, bien sûr, dans notre équipe, Jacob, Girard Jacob, il fait partie des trappeurs, mais il est entraîné par Guillaume Duchesne-Lessard, qui est un super entraîneur. Puis lui, tu sais, c'est vraiment plus le côté élite. Donc, Jacob...
Il est de Bécomo?
Oui.
Cet entraîneur-là?
Vraiment, vraiment super hot. Fait que Guillaume, lui, il entraîne Jacob. Jacob a fait la première course. Sauf que malheureusement, tu sais, il s'est blessé, il n'a pas pu faire les autres courses, mais c'était magique. C'était beau là, de voir ça. Là, je me disais, wow! T'sais, dans ma carrière, je ne suis pas sûre que Bécomo, je vais en voir souvent des gens qui sont aussi performants. Fait que, il avait fait vraiment une performance incroyable là, à la première. Puis après ça, il n'a pas pu faire les autres. Mais je suis certaine qu'il va se reprendre là, l'an prochain. Sinon, dans mon équipe à moi que j'entraîne, il y a Cédric Arsenault, Marie-Lune Barry, Jacob Arsenault. T'sais, j'ai des gens comme ça, des jeunes là, qui sont super bons. Puis entre autres, Marie-Lune et Cédric, ils se sont classés pour... Marie-Lune, elle s'est classée pour le Canadien. Donc, au provins, elle, il faut que tu sois dans les 25 premiers. Puis, elle est arrivée 19e au provins. Puis, elle a fait le Canadien en fin de semaine passée.
Ah,
la course, ça a super bien été. 18e.
Oh!
18e au Canada, là, c'est fort.
Ouais.
C'est vraiment fort. Et ça, là, c'est de toute beauté parce que c'est une petite fille qui est super humble. Elle est très, très forte, puis elle ne sait pas nécessairement. Puis moi, je pense qu'on peut l'amener encore beaucoup plus loin, là, cette jeune fille-là. Elle est dans sa première année de cross-country. Mm. Elle a 18 ans. Fait que, tu sais, c'est wow, c'est super
le
beau.
Potentiel qu'elle a.
Puis on a Cédric aussi. Ben, en fait, Cédric et Marie-Lune ont été approchés par des universités pour éventuellement aller courir là, pour eux. Fait que vraiment des belles performances. Puis j'en ai d'autres, tu sais, qui ont performé super bien. Tu sais, on est quand même, là, je dirais, dans le premier tiers moitié, là. Fait que j'ai vraiment des beaux résultats. Fait que, puis malgré le résultat que tu étais dans le premier tiers ou moitié, bien, ils se sont améliorés. Fait que c'était vraiment une belle saison, là. Puis une belle équipe. J'avais à peu près une quinzaine là, de coureurs au total. Puis dans mes coureurs, j'en avais huit qui faisaient les compétitions là, de façon régulière.
Excellent, ça. Oui. Puis est-ce que tu penses continuer encore longtemps?
Jusqu'à la fin. Moi, je pense que ce qui me ferait plus de peine, tu sais, mettons, ma retraite, là, c'est peut-être dans 8-9 ans, puis je me dis, mon Dieu, tu sais, oui, mes étudiants, j'aime ça, tout ça, mais je ne suis pas sûre que je vais lâcher les trappeurs. Je pense que même à ma retraite, là, si je passe encore puis que je sens qu'ils ont confiance en moi et tout ça puis que ça va bien, mais je pense que je vais continuer parce que j'adore ça. Mm-hmm. La preuve, cette année, là, j'ai décidé de les entraîner toute l'année. Là, Roland a fait « Ah ouais! » Tu sais, oui. J'ai dit là, je les entraîne aussi l'été parce que je me rends compte qu'on a une courte saison. Puis quand on arrive en août, tu sais, il y en a, tu sais, que je lui demande, bon, okay, c'est quoi votre bagage de course? Puis là, ça me fait toujours rire parce qu'il y en a qui me disent, ah, moi, je cours. OK. Puis là, je dis, OK, fait que tu cours de façon régulière. Puis là, il me dit, de façon régulière, qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis là, je fais, minimalement 2-3 fois semaine, tu sais, puis ça, c'est un minimum. Ah, finalement, je cours pas parce que j'ai couru une fois la semaine passée. Mais lui, dans sa tête, tu sais, il a couru, là. Mm-hmm. Fait que je me dis, on part de loin. Fait que, tu sais, les blessures, tout ça. Fait que je me dis, si je les entraîne à l'année, puis que vers la fin de l'année, on va chercher un peu les secondaires 5, là, qui ont le goût, qui vont venir au cégep de Bécomo, puis qui ont le goût de le faire, puis on les inclut dans la gang, je pense qu'on va mieux performer à l'automne. Mm-hmm. J'essaie.
Fait que, bravo!
C'est une passion...
Ouais, dans le fond, tu parles des blessures, tout ça, en voulant dire, pour faire comme une progression plus...
Qui rentre plus dans les normes. Parce que c'est sûr, tu sais, que si tu commences à courir, puis que trois semaines après, tu fais une compétition, on s'entend, là, que commencer à faire des intervalles intenses, puis, tu sais, les filles, ils font quand même 6 km, les gars, 8 km, puis en sentier, c'est pas comme la course sur route. Fait que, tu sais, les blessures, là, souvent, là, tu sais, les genoux, les périostites, là, les chevilles, tout ça, fait que, puis c'est plate parce que des fois, ben on a qui peuvent pas faire de compétition à cause de ça, fait que finalement, ils sont limités. Fait que je me dis, ben j'aimerais ça, tu sais, voir quel impact ça va avoir si je les entraîne à l'année puis qu'ils arrivent avec un bon bagage. Puis là, on va pouvoir pousser, tu sais, pour le bon moment, là, tu sais, pour piquer quand ça va être le temps.
Bien, puis si on peut finir là-dessus, tu parlais de ta retraite dans 8 ans.
Oui.
Puis comment... peux-tu nous parler aussi de ta carrière au cégep, tu sais, comment ça s'est passé? Un genre de bilan.
Eh hey, bien, moi, là, en fait, j'ai étudié ici. Hein, ouais, j'ai fait mon DEC ici, en soins infirmiers. J'ai commencé à travailler. Puis déjà, dans mon DEC, là, je me rappelle, là, moi, là, quand on finissait les cours, là, ceux qui avaient de la misère, je les prenais. Puis là, je le montrais. Je les expliquais les affaires, puis tout ça. Puis je me disais, moi, là, un jour, je veux enseigner. Mais j'ai besoin d'aller me chercher de l'expérience pour pouvoir donner des exemples de ça. Fait que j'ai travaillé 7 ans à l'hôpital. J'ai travaillé un petit peu partout. Puis, à un moment donné, il y a un poste qui s'est ouvert, bien, une charge. Fait que là, je me suis dit, ah, tiens, je pense que là, je m'essaye puis j'y vais. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler au cégep, donc en janvier 2002. Puis, c'était une charge sessionnelle. Puis finalement, bien, j'ai jamais arrêté. Fait que j'ai toujours travaillé, là, comme enseignante. Puis je suis allée me former, bien sûr, parce que syndrome d'imposteur, hein? Fait que là, j'ai été faire... j'ai fait mon bac, là, en soins infirmiers. Puis après ça, j'ai fait ma maîtrise, là, en enseignement au collégial pour me perfectionner, pour être une meilleure enseignante. Puis, tu sais, j'ai encore des croûtes à manger, là, malgré le fait que, c'est ça fait 19 ans, là. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, là, je me suis dit, on dirait que j'avais comme le goût d'autre chose. Fait que j'ai bifurqué vers conseillère pédagogique. Puis là, j'ai adoré l'expérience, mais pendant que j'étais sur la chaise de conseillère, je me disais, man, tu sais, je peux-tu, moi, là, me dire que je ne serai plus jamais infirmière? Je ne serai plus jamais avec des gens. Puis ça a fait non. C'est sûr que non, je ne peux pas. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Fait que j'ai dit à Stéphanie Cole, qui était ma directrice, j'ai dit, Stéphanie, j'adore ce que je fais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ça me manque trop. Fait que je suis retournée à l'enseignement. Puis, j'ai fait un petit peu de tout en enseignement. En fond, j'ai fait de la coordination puis du département. Ça aussi, j'aimais ça, mais je trouvais que je n'étais pas assez avec les étudiants. J'ai dit non, c'est bien, ça me permet de connaître le programme et tout ça, mais j'ai besoin, moi, de travailler auprès des jeunes, aller à l'hôpital, soigner des patients. Ça, c'est ma passion aussi. Fait que ça a été ça, mon parcours. Puis, un parcours vraiment intéressant parce que j'ai l'impression, tu sais, que j'ai grandi là-dedans puis qu'aujourd'hui, là, j'ai plein de bagages, plein de connaissances. Puis là, je fais, hein, tu sais, je connais ça. C'est bizarre. C'est un peu bizarre. Tu sais, les jeunes me posent des questions, les nouvelles enseignantes, puis je dis jeunes parce que c'est des jeunes. C'était mes étudiantes, tu sais, ça a été mes étudiantes. Ah, c'est beau. Fait que là, ils me posent des questions, puis ça, puis là, je fais, ah, ouais, tu sais, là, c'est comme moi la référence un peu. Puis on dirait que dans ma tête, moi, je suis pas là, on dirait que dans ma tête, j'ai encore 20 ans, tu sais, fait que...
Le syndrome de l'imposteur qui revient.
c'est ça. Mais j'adore ça. Puis, tu sais, malgré le fait que ma retraite est peut-être dans 8-9 ans, je suis pas pressée. Je suis pas pressée parce que j'aime ça.
Ouais.
Puis je suis bien ici, fait que...
Hey, ben c'est très inspirant. Merci, Christine, d'avoir été là avec nous aujourd'hui.
Christine Dufault, quelle belle personne.
Ah, oui.
Merci.
Je vous renvoie le compliment.